il semble que il pensait déjà que ce qu'il avait entre les mains, on le voit en photo aussi, c'était un truc très bizarre. Il y a une histoire assez curieuse. Donc là, on voit que le complot, on pouvait pas l'éviter. Il est dans l'affaire. Il est dedans. Oui, c'est pas un truc qu'on rajoute dessus, quoi.
Quand on touche au domaine militaire, on est forcément au secret. Et ça...
Forcément, dès que vous parlez de CIA, dès que vous parlez de trucs comme ça, du gouvernement et tout, il y a forcément des secrets. Oui. Donc ça vient très vite. Et bon. Et après, le truc, c'est effectivement de se dire, c'est quoi toute cette logique? Moi, je pense que le plus proche que je connaisse, c'est le discours rationaliste. D'accord. Parce que c'est le discours rationaliste qui est repris par les gens qu'on dit irrationalistes. En fait, ils ne sont pas irrationnels, ils sont rationalistes. Ils ont le même discours sur la preuve. Et dans le discours du complot, c'est celui-là qu'on retrouve aussi. Parce que si vous discutez avec des rationalistes, vous allez voir qu'à un moment, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire, bon, il y a des gens qui croient n'importe quoi, qui croient à l'alchimie, l'astrologie, tout ça, c'est des crétins, qui sont irrationnels, qui ne sont pas sérieux, tout ça. Mais au bout du compte, leur théorie, c'est en fait de dire que il y a un complot pour abattre la science. C'est-à-dire que tous ces gens, ces astrologues, ces trucs, en fait, ils font une espèce de conspiration mondiale pour mettre par terre la science, pour s'attaquer à la science. C'est le vieux discours du complot obscurantiste contre la raison. Karl Popper en parle dans ses livres. Et ça, c'est un truc extrêmement important. C'est la vieille théorie sur Galilée. Galilée, héros de la science, nous apporte la connaissance et l'Église essaye d'étouffer tout ça. Non, la Terre est au centre de l'univers, etc., etc. C'est le premier discours de complot, il est là. On a essayé d'étouffer le savoir scientifique. L'Église, après avoir régné pendant des milliers d'années, enfin, on est pas une centaine d'années sur le monde, a voulu maintenir cette oppression en cachant la vérité. Il y a quelques années, moi j'étais dans le bureau de Jean-Claude Péquer, astrophysicien, professeur au Collège de France, donc un scientifique. Le scientifique est un bon scientifique, il n'y a pas de problème. Et à un moment, on discute de mon livre sur Ozone. Et il me dit, comment vous expliquez ça et tout, que ça soit impossible, le complot sur... Je lui dis, moi j'y crois pas parce que je ne pense pas que sur plusieurs décennies, on puisse maintenir un secret de façon aussi hermétique. C'est-à-dire que, ça, comme ça implique des centaines, puis rapidement des milliers de personnes, l'administration américaine, enfin, même quand c'est cloisonné, il y a des agents qui finissent par être au courant. Donc forcément, ça devrait fuir de partout. On ne peut pas maintenir un complot de façon hermétique. Et il me dit, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que des exemples de complots qui ont tenu bien plus longtemps, en impliquant plus de gens, on en connaît. Je lui dis, de quoi vous parlez? Il me dit, l'Église contre la science. J'étais assis, heureusement. Mais voilà. Pour cet homme, il est évident que toute l'affaire Galilée, tout ce qui s'ensuit, c'est un complot de l'Église contre le savoir. Si on lui explique que l'histoire des sciences a montré que pas du tout, que Galilée l'a mis du pape, que c'est une histoire beaucoup plus compliquée qu'on le pense, il accepte pas. Voilà. Et le théorie du complot est là. Et après, vous avez des gens qui récupèrent ce truc et voilà, ça traîne sur leur front, on tombe dans les désirs comme ça. Mais au départ, c'est pas foncièrement différent. Et je pense que la curiosité, elle est là, le truc, il y a quelque chose de bizarre là. Et quand on creuse, alors là, ça fait un. Si vous prenez les groupes, les rationalistes sont organisés en association, vous avez la plus connue en France, c'est l'Union rationaliste, qui a été fondée en 1930 par Paul Langevin. Pareil, scientifique. Alors Paul Langevin, bon, animé de l'attention, sentiment très noble et tout, il ne s'agit pas de. Et donc ces groupes se développent, alors Paul Langevin, par ailleurs communiste. Donc là-dessus, vous ne pouvez pas faire l'histoire du rationalisme si vous ne comprenez pas un tout petit peu la place du stalinisme dans tout ça. C'est-à-dire que c'est quoi le communisme au niveau du stalinisme? C'est aussi l'idée du complot. Quand sur les problèmes dans les années 50, ceux qui disent qu'il y a des goulags et tout, non, non, c'est une invention, c'est une conspiration, on fait croire que pour abattre le communisme et tout.
Ça, donc, c'est des communistes.
Oui, c'est que des staliniens.
Staliniens.
Oui, pendant très longtemps, y compris en France, surtout en France d'ailleurs, où le PC était très proche de Moscou, on a maintenu tous ces discours. La moindre critique qu'on faisait au communisme ou au communisme soviétique et tout, c'était une attaque voilée, réactionnaire, commandée par Washington et tout ce qui s'ensuit. Donc déjà, le discours du complot, il est là-dedans.
Oui, enfin, dans le contexte aussi bien, ça, c'était...
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a ce couple communiste, pro-stalinien dans certains cas, et rationaliste. Et ça, vous le voyez dans la revue L'Impensée, dans lesquelles il y a rationaliste et tout. Alors après, il va y avoir de la dissidence. L'Union rationaliste va se séparer après du communisme. Mais un certain nombre, des gens comme Schatzman et tout, ont été des gens qui ont eu leur période stalinienne. Donc, quand ils critiquent les gens qui croient au couvre-volant et tout, oublient de dire qu'ils ont été dans le même style de pensée. Ils ont eu le même discours, eux aussi. Donc, on conspirait contre eux et contre la vérité et tout ce qui s'en suit. Et donc, ce truc, c'était sur deux plans, c'est-à-dire, on conspire contre le vrai communisme en faisant croire que c'est une horreur, en salissant la mémoire de Staline et tout ce qui s'en suit. Je suis désolé, hein, on a du mal à faire pire que... Bon. Et en plus, et de l'autre côté, il y avait la conspiration contre la science. C'est-à-dire, tous ces gens qui croient à n'importe quoi et tout, sont en fait des gens qui essayent d'abattre le savoir officiel, le vrai savoir, pas le savoir en fait, la science, quoi. Donc, le discours sur le complot, il est né là-dedans. Et après, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tout un tas d'autres groupes qui sont apparus dans la mouvance du néo-rationalisme. Il y a notamment le groupe qui a été fondé par un journaliste scientifique, Michel Rouzet, l'Association française pour l'information scientifique, qui fait un bulletin qui paraît toujours, qui s'appelle Science et Pseudoscience, qui est un truc de lutte contre les fausses sciences. Ensuite, il y a eu un autre groupe fondé par des rationalistes, le Comité français pour l'étude des phénomènes prétendument paranormaux, le CFEPP. Après, les Américains ont fait un truc qui s'appelle le Psychop, qui est le plus connu, qui est un espèce d'immense réseau international de gens qui luttent contre l'astrologie et tous ces trucs-là. Donc vous avez tout un tas de groupes. Et en France, un des derniers, fondé en 1995, s'appelle le Cercle Zététique. Et c'est un groupe qui supporte un scientifique de Nice, qui s'appelle Henri Brock, qui enseigne la zététique à l'université de Nice. La zététique, alors zététique, zététique en grec, c'est le doute. Et son truc, ça s'appelle l'art du doute, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du rationalisme. C'est comment apprendre à détecter tout ce qui n'est pas scientifique, tout ce qui serait de la fausse science. Il pense qu'il y a une méthode pour détecter ça. Et il y a une espèce de fan club qui s'est créé, d'Henri Brock, qui s'appelle le Cercle Zététique, qui est créé en 1995 par un gars qui s'appelle Paul-Éric Blanru, qui était étudiant en histoire. Et complètement par hasard, je découvre que ce type, Paul-Éric Blanru, avant de faire le Cercle Zététique, qu'est-ce qu'il faisait? Il était président du Cercle d'Austrasie, un groupe d'extrême droite. Il avait fondé avec Thierry Gourlot, conseiller municipal FN, Front National à Metz, et dans lequel il y avait tout le bassin du Front National. Donc je me dis, il est où le rapport avec la science?
C'est le négationnisme, ouais. Le rapport.
Comment?
Le rapport, c'est le négationnisme.
Non, pas chez Blanru. Je pense pas qu'il soit négationniste. Après, j'ai rien détecté de tel. Non, je pense que l'idée, elle est plus banalement, c'est quoi le rationalisme? On ne veut pas de mélange entre la science et la culture. Ben, c'est un peu une idée qu'on trouve dans les pays d'extrême droite, pas de mélange.
Pas de mélange entre science et culture.
Voilà. Des choses pures.
Ah, comme ça.
Oui. Donc, voilà. Et par contre, au Cercle Zététique, alors là, c'est plus récent, il y a un type, il s'appelle Vidovi, vous pouvez aller voir son site internet d'ailleurs, ça vaut le détour, qui en fait, et c'est là où il y a une décision au sein du Cercle Zététique, il y a une partie des gars qui sont marrés, qui ont fondé l'Observatoire Zététique. Mais là, on sait, en fait, c'est en partie à cause de ça, c'est que Vidovic en question, non seulement il est extrême droite, mais apparemment il est négationniste. Et son discours, ce qu'il aurait dit à un autre gars, il aurait dit, si tu es vraiment sceptique, tu ne peux pas croire à un truc comme le champ royal. Voilà le scepticisme.
Mais c'est pas une question de croyance, c'est une question de savoir.
Tu ne peux pas croire. C'est-à-dire que lui, justement, il dit c'est la croyance.
Oui, c'est la croyance.
Voilà.
Enfin, selon
lui. Croire au champ royal, c'est pour lui qui croit. C'est la croyance, on croit un truc qui n'existe pas. Oui, où ça va, c'est là où il y a vraiment un problème, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que ce discours du doute, ben vous pouvez le pousser. Si vous n'avez pas un peu de bon sens à un moment en disant, arrêtons, ça joue comme un rouleau compresseur qui permet de tout avaler. Mm-hmm. Vous pouvez tout remettre en question. Et moi, j'ai eu une discussion avec Thierry Messant. C'est le genre de type, si on lui dit que le ciel est bleu, il faut des preuves.
Attends, il y en a.
Il est là. Mais non, mais justement, le truc, c'est que lui, il a un système qui, en fait, permet de remettre tout en question, vous voyez. C'est qu'il y a des trucs qui tiennent parce que tout simplement, on est tous d'accord. Il y a tout un tas de choses, on estime qu'il n'y a pas de preuves à fournir
dans la vie quotidienne.
Non, c'est qu'il a une...
Des actions, quoi.
C'est qu'il a une méthode qui permet de discuter. Or, dans certains cas, normal, on discute, on dit « t'as pas de preuves de ceci ». Mais c'est certains cas particuliers, des crises très locales en science. Mais eux, c'est des gens qui croient que ce truc-là doit s'appliquer à tout. Que pour tout, pour n'importe quel postulat, pour n'importe quelle affirmation, on doit pouvoir apporter des preuves. Et du coup, leur discours, comme c'est un discours critique, avec leur discours, vous pouvez remettre en question tout. Si quelqu'un vous dit Napoléon, il va falloir que vous prouviez, mais il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas prouver comme ça.
Donc c'est un doute systématique. En
voilà.
Fait.
Enfin, le problème, c'est qu'il systématise le doute.
Il
l'applique à tout.
Il systématise le doute, pourquoi pas ? On peut douter, mais de là à reconstruire. Parce que lui, c'est aussi ce qu'il fait. Il reconstruit une nouvelle hypothèse à partir de là.
Oui, mais...
À laquelle il croit. Hmm. Donc, il ne doute pas de ce qu'il se dit lui. C'est quand même très... Vous comprenez mon problème ?
Oui, mais parce que lui, derrière, il a... C'est qu'il monte tout un tas de trucs où il dit telle chose. C'est... Là, à un moment, il y a son truc qui consiste à lui, Thierry Messant, pense que ce qu'il voit en face sur l'image est clair. C'est là où il y a ce truc-là, il pense que tout est immédiatement accessible. S'il n'avait pas cette idée en tête, hein, il dirait bon, il faut des experts, ça va être une des experts, on ne va pas savoir, etc. Il aurait justement le doute.
Oui.
Mais il dit non, on voit bien qu'il y a un trou, là, dans ce trou-là, on ne peut pas mettre un avion. Donc à partir de là, il construit tout un autre discours, et forcément, il y a quelque part, on lui cache quelque chose.
Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que toutes les théories du complot sont construites de façon logique et rationnelle ? Enfin, logique.
Enfin, en apparence, logique et rationnelle.
En apparence, certainement, mais enfin, est-ce que ça ne relève pas, ou est-ce que c'est simplement ils remettent un peu en cause les faits et ils arrivent à arriver en fait à la construction d'une autre vérité, mais qui est construite tout aussi logiquement que l'explication qu'on fournit.
À partir de postulats parfois un peu farfelus, quoi.
Voilà, enfin, c'est ça.
Je sais pas ce qui est. Le problème, c'est qu'est-ce qui est farfelu. Le truc, c'est que je pense qu'il y a quand même ces gens qui sont des adeptes de discuter les choses qu'ils ont en face, donc qui exercent une espèce de sens critique un peu à tout va, et qui finissent comme ça par discuter plein de choses. Donc, y compris ce qui n'est pas discutable.
Est-ce que leurs mécanismes de preuve sont logiques, ou est-ce que. Parce que. Enfin, nous, par exemple, c'est vrai qu'en lisant certaines choses, on a quand même l'impression que le raisonnement n'est pas toujours très clair et qu'il y a quand même des accumulations de détails qui font un peu que le lecteur semble haut.
Non, c'est pas trop. De toute façon, la logique, elle est toujours liée à un groupe de référence. Vous n'avez pas de truc. Notre vérité scientifique, elle est liée à la société qu'on a construite, à des choix de civilisation.
La logique qu'on utilise, je veux dire, c'est celle qu'on utilise en... Enfin, la logique en science, c'est celle qui est utilisée en maths, c'est quelque chose qui reste...
C'est
universel, mais il y a eu des actions de départ qui font qu'on se place dans un cadre.
Bien sûr, oui, mais justement, c'est bien particulier.
C'est ça que je pose comme question. Est-ce que c'est simplement... Est-ce qu'ils ont un raisonnement qui est différent, ou un raisonnement qui ils attendent n'est pas logique, mais qui masque ces failles de logique avec, je ne sais pas, avec les artifices comme des accumulations de détails, je ne sais pas, un brouillage de pistes. Est-ce que le raisonnement est logique, mais c'est simplement qu'ils remettent en cause à la base les faits.
Donc c'est les postulats.
Enfin, les postulats de base, les postulats. Tu vois.
Voilà.
Moi je pense, enfin, moi ce qui me semble, c'est que le discours critique de quelqu'un comme Messant, son erreur, c'est de croire que c'est qu'on doit discuter tout comme ça. Alors qu'en fait, ce genre de discussion critique, elle intervient assez rarement, sur certains trucs très particuliers. Certains débats en science où effectivement les mecs ne sont pas d'accord, donc ils vont discuter de telle expérience, etc. Mais ça a un usage complètement local.
Mais comment il discute, lui ? Il va dire, bon, vous me racontez ça et je remets en cause ce que vous me racontez. Et ça, ce sera mon postulat, et ensuite je vais dire où les films. Ou alors.
Si on donne ce postulat à n'importe qui, on doit arriver au même résultat.
Voilà.
Non, vous n'avez pas le même résultat. Non, c'est très simple. Il y a l'histoire du 11 septembre. Bon, il y a deux avions qui sont tombés, qui ont percuté les tours, un troisième qui sont tête à gueule. Il y a une histoire qui se construit là-dessus. Et en plus, bon, au départ, il faut bien voir, c'est que d'un jour sur l'autre, l'histoire, elle varie. D'une minute sur l'autre. Au début, on pense que c'est un missile qui a heurté le. Bon, ça c'est lié au cafouillage, parce que ça passe par des tas de personnes et tout, le temps que les pompiers soient sur place. Enfin bon, c'est une espèce de grand pataquès. Donc forcément, il n'y a pas, tout le monde ne parle pas d'une voix. C'est la société. Les gens, chacun interprète les trucs. Là-dessus, Messant arrive en disant, regardez, les porte-paroles des pompiers disent ceci, les porte-paroles de l'armée disent cela, et tout comme ça, il y a un problème. Tout le monde ne dit pas la même chose. Au lieu de se dire, c'est banal, la société fonctionne comme ça, lui, il voit un problème.
D'accord.
Parce que déjà, tout à l'heure, c'est une idée de la logique. On devrait être rationnel. Tout ça, c'est une grande idée qu'on devrait être des gens sérieux, rationnels, qui ne disent pas n'importe quoi. Oui, mais c'est comme ça, quoi. On vit dans une société. Il faut faire avec. Bon.
C'est complètement illusoire, comme idée.
Oui, mais au départ, les rationalistes, c'est un peu ça. Pourquoi? Vous vous rendez compte, c'est pas scandaleux, il y a des gens qui croient à l'astrologie. Il y a des gens qui croient au secours, des trucs comme ça. C'est ça leur discours. On devrait tous parler d'une voix sur la science.